la CBC à Don Cherry.
Bonjour, Marley Dan.
Dans l'avant-match, on a le coach. Éric Lavigne.
Salut Éric, comment vas-tu?
Ça va bien, merci toi, Dan.
Ça va très bien. Éric, je veux d'abord te transmettre des félicitations d'auditeur parce que ça fait quelques années, 2 ans, que tu collabores dans mon émission. Puis, évidemment, t'es partout à Québec. Tu as un job au Cégep Garneau pour diriger les sports et les équipes sportives là-bas, puis le centre d'entraînement et tout. Mais tu croises pas toujours les auditeurs qui te disent « Ouais, finalement... Dan Pou, t'as raison, une chance tu le ramènes à l'ordre parce que lui, il est anti-canadien pas à peu près. » Fait que t'as pas toujours les échos de vestiaire des auditeurs, puis j'en ai de plus en plus, puis j'en ai eu encore 2 en fin de semaine dernière, des gens qui me disent « Quand tu parles avec Éric Lavigne le jeudi, Dan, j'arrive en retard chez nous, j'écoute la discussion au complet.
» C'est bon, ça veut dire que je peux causer des chicanes de couple, c'est que c'est une bonne nouvelle.
C'est ça, exact. Éric, la première question que j'aurai en tête pour toi ce soir, là, on a fait passer un extrait, puis Claude Julien s'en prend à coulac pour le match de jeudi dernier. Dans quelle mesure, quand tu t'adresses aux journalistes après les matchs, il faut que tu protèges tes joueurs?
Il y a des soirs où c'est tellement évident que tu peux pas faire semblant non plus de les protéger. Là. Tu peux mentionner que t'as vu la même chose que tout le monde, puis que ton joueur a l'habitude de mieux performer dans certaines situations. Sauf qu'à cette période-ci de l'année, là, c'est dangereux de... C'est pour ça que de plus en plus, les coachs sont briefés, d'ailleurs, après les matchs, pour faire attention de ne pas se mettre le pied dans la bouche. Parce qu'un coach, après un match, là, Dan, c'est... T'es tellement vidé, puis en même temps, tu peux tellement être émotif qu'il faut que tu fasses attention. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut que tu laisses la poussière retomber, puis que tu fasses attention à ce que tu vas dire, parce que c'est facile d'écorcher un joueur. Puis c'est tellement dur à récupérer par la suite qu'il faut que tu sois plus que prudent. Surtout à cette période-ci de l'année, là, dans un sprint des 10-15 derniers matchs, t'as pas place à vouloir écorcher quelqu'un sur la place publique parce que c'est trop dur de le remonter par la suite.
OK, si je t'avais dit le 21 mars, le Canadien va batailler pour une place en série et 4 de ses 6 défenseurs seront Follin, Kulak, Mété puis Ben. Tu m'aurais dit, tu peux finir ton diète Pepsi, ça arrivera pas?
C'est sûr qu'on aurait dit ça, parce que si on sortait les enregistrements du début de la saison, je pense qu'on n'est pas plusieurs à penser qu'ils batailleraient à cette période-ci de l'année. Sauf qu'ils nous ont tellement donné d'espoir, puis ils nous ont tellement permis de croire qu'ils feraient partie des séries, que c'est ça qui est décevant cette période-ci de l'année, parce que tu regardes leur fiche, qu'avec un club qui est 10 matchs en haut de 500, normalement, t'es fait série. À 92, 94, 96 points. Puis là, en plus de ça, tu compares à l'autre conférence où il y a des clubs pas mal avec des pas mal moins bonnes fiches qui ont encore des chances de faire les séries. Où ce qu'on est émotif présentement, puis moi le premier, c'est qu'on pensait tellement qu'on était proche. Puis à un moment donné, on était avec plusieurs points, 8-9 points d'avance. Je reviens toujours à la fameuse période des transactions. C'est comme si on n'avait pas présumé que dans le dernier stretch de la saison, le jeu allait se resserrer. Je parlais la semaine dernière avec mon ancien coach, Jay Gaulard, puis il me disait, Éric, la game a changé dans le dernier blitz de la saison où les clubs resserrent le jeu, puis on ne voit plus le Canadien depuis ce temps-là, puis je trouve tellement que c'est vrai. C'est tellement ça qui fait la différence présentement. Le Canadien, des matchs qui gagnaient avant les fêtes avec leur vitesse, là, c'est-tu drôle, on ne parle plus de la vitesse du Canadien dernièrement, parce que le jeu s'est resserré, il y a moins d'espace, puis le Canadien fait pas le poids physiquement. J'espère qu'il reste un petit peu là pour le dernier sprint, qu'il reste un peu de gaz pour aller chercher le but de plus qui va faire la différence.
Éric, je suis plus capable d'entendre, pour gagner un match, il faut que tes meilleurs soient les meilleurs. Je suis plus capable d'entendre ça, j'ai trop entendu ça, puis je trouve tellement que ça veut rien dire. Je comprends le sens de cette théorie-là, mais quand tes meilleurs, comme le Canadien, sont Domi, je vais dire Gallagher, Weber, puis Price... Quand t'es meilleur contre, je vais être poli, là, 3/4 des équipes de la Ligue, quand tes meilleurs sont moins bons que les meilleurs de l'autre bord, il y a des chances que tu perdes. Je comprends que c'est eux autres qu'il faut qu'ils enlignent le match, mais je suis plus capable d'entendre ça, il faut que tes meilleurs soient les meilleurs.
Ça, c'est un cliché. C'est un cliché qu'on entend souvent. Mais présentement, c'est pas... Le meilleur, là, il est le meilleur. C'est Carey Price. S'il était pas là, il y aurait plus de game. puis il n'y aurait même pas de fièvre de penser qu'il y a une course de série. Ce qui me dérange un peu plus, Dan, c'est qu'on a beau les appeler les meilleurs, les pas meilleurs, les moins bons. Ce qui me dérange un peu, c'est quand je jouais Paul Byron, c'est la quatrième ligne.
Ça n'a pas de bon sens.
Pose-toi la question, y es-tu dans tes 6 meilleurs? Dans tes 8 meilleurs? S'il est 10, 11, 12, on peut bien avoir de la misère. On se rend droit de s'attendre qu'on ait une Christie d'équipe. C'est un gars qui en a scoré au-dessus de 20 dans les dernières années, à chaque année. Sauf que quand je le vois là, es-tu blessé? Y a-tu de quoi qu'on sait pas? Là, ça vient me déranger, puis là, ça vient me chercher, puis je mets tous les clichés de côté, à savoir que les meilleurs doivent être les meilleurs. Les Canadiens, là, ils en ont un meilleur, que t'es sûr qu'il sera le meilleur dans toutes les autres équipes. Il s'appelle Carey Price, puis présentement, il livre la marchandise, lui, puis il est le meilleur sur la glace. Les autres, là, t'as beau être le meilleur ou pas le meilleur, faut que tu trouves une façon de créer de l'attaque, faut que tu trouves une façon de faire la différence, faut que tu trouves une façon d'éviter les revirements. Puis ils ont gagné en équipe à 20 fêtes, mais là, c'est plus la même game, c'est serré, t'es moins gros physiquement, t'es plus essoufflé, puis ça, ça paraît à cette période-ci de l'année, mais j'espère qu'il va rester un petit boost là, d'ici à la fin. Mais ça, c'est malheureux, là, parce qu'on est rendu au match 72, 73, 74, puis on a encore espoir, mais faut que le jeu de puissance te donne une coupe de but.
Ouais.
Faut que ce soit ce but-là qui fasse la différence. Puis s'ils n'ont pas ça, t'as pas t'appeler le meilleur ou non pour revenir à ta question. Ils gagneront pas si ça marche pas.
OK. Je suis content que tu reviennes sur Paul Byron, parce qu'en début de semaine, j'ai lancé le sujet dans mon émission, mais moi, j'ai pas 20 ans ou 22 ans de coaching comme toi. J'ai coaché 12 games à Saint-Jean-Port-Joli pour finir une saison en 2004. Fait que tu comprends-tu que mon bagage, il n'est pas super impressionnant. Par contre, je voyais Byron sur le quatrième trio, puis je me disais, voyons, c'est le gars, c'est pas un game changer comme c'est Nick Crosby ou Patrick Kane, mais pour le Canadien actuellement, avec Gallagher, en attaque, c'est les deux game changers. C'est les deux gars qui vont marquer le but auquel tu t'attends pas et qui vont ramener ton équipe dans le match quand ça va plutôt mal. Comment ce gars-là peut être utilisé sur un quatrième trio? Et en sous-question à toi, puisqu'on parle des trios, puis on challenge évidemment Claude Julien, c'est un peu notre job, mais pourquoi, en début de saison, une équipe gagne avec des combinaisons de trios, puis pourquoi on arrive au 21 mars, puis il y a comme un bon gars sur chaque trio, mais qui joue avec deux gars ordinaires? Pourquoi on ramène pas les trios du mois d'octobre?
Je te suis parfaitement là-dedans. Puis la définition que tu viens de faire de Byron, c'est le point que j'ai voulu t'amener. Byron, là, même s'il n'a pas un bon match, à un moment donné, avec les fusées qu'il y a dans ses patins, il va te compter un but que tu t'attends pas, qui va énergiser ton équipe. C'est pour ça que je la comprends pas, moi, Byron. Dis-moi pas que Lekkonen joue mieux que lui puis a le droit d'être sur un trio plus élevé, puis je vais t'en nommer d'autres. Mais ça, pour moi, je la comprends pas, celle-là. Puis j'ai bien du respect pour Claude Julien. J'ai coaché contre lui. Il a gagné pas mal plus de games dans sa vie que moi, puis il a gagné la Coupe Stanley. Mais présentement, Byron, celle-là, je la pogne pas. Mon autre point, c'est que quand il reste 9 games où je fais du second guessing puis je m'amuse à jouer au gérant d'estrade dans mon salon, mais d'ici à la fin de l'année, Drouin... Je suis pas un grand fan de Drouin présentement, mais je vivrai avec jusqu'au bout en le mettant avec Max Domi. Ça a déjà marché. J'ai le feeling que Gallagher veut pas nécessairement jouer Drouin, puis c'est pour ça que Drouin est pas avec. Je pense que Gallagher doit avoir fait une coupe de montée de lait dans le bureau du coach où le coach y a parlé, puis qu'il va pas avoir de fun à jouer avec Drouin. Mais Max Domi, je l'essaierais, puis je dirais, je vais mourir avec. Je vais y aller jusqu'au bout en le faisant jouer avec Max Domi. Puis si on ne fait pas une série, j'aurais essayé. Mais tu parles tantôt des meilleurs, devraient être les meilleurs. Il n'est pas le meilleur, mais il pourrait l'être. C'est que j'essaierais de vivre avec, parce qu'à la fin de l'année, ça se pourrait qu'on ait un petit doute, qu'on se pose la question. Oups! S'il avait joué là, on aurait-tu eu plus de chance? Je sais qu'on va y passer un message. Là, il a joué 10 minutes l'autre soir. Mais à game 32, je comprends mieux. Mais rendu à game 72, si on a une question de vie ou de mort... Puis, à mon avis, il faut qu'il joue. Mais Byron, ça, c'est ma plus grande déception de ne pas voir qu'on lui donne plus la chance de changer la game.
Éric, un point en 17 matchs pour Jonathan Drouin. Tu dis, on veut y lancer un message. Ça a été l'attaquant le moins utilisé à Philadelphie. Est-ce que, de ce que tu connais de lui, est-ce que c'est le genre de personnalité à qui tu envoies un message puis il saisit ou bien finalement, il s'en fout puis il s'écrase?
Mais présentement, je pense qu'il boude, là. Quand je le regarde, il boude. Si tu le regardes, là, recule il y a de ça 5-6 ans quand il a joué pour l'équipe Canada Junior à sa deuxième année. J'avais eu des images à la TV que je le voyais quand ça marchait pas. C'est une année que l'équipe Canada n'a pas bien performé. Et il boudait. Il passait son temps chialé après les arbitres. Tu le voyais baisser les bras. C'est un peu le même genre de joueur qu'on voit là. Parce que c'est une attitude qui, présentement, ça marche pas. Il fait comme se décourager. On dirait qu'il baisse les bras rapidement. Regarde-le sur certains de ses chiffres à la glace. Quand il voit que ça marche pas, tu le vois revenir bien tranquillement au banc. Ça, c'est signe d'un gars qui est totalement découragé. À mon avis, pour le réallumer présentement, il a juste de le faire jouer avec Domi. C'est la seule affaire qui va retrouver une étincelle. Parce que Kotkaniemi, là, ça l'allume pas trop, là. Puis Arnia non plus, ça l'allume pas trop. Tu vois qu'il reprend pas son zip. Mais pour 9 matchs, puis on fera le procès à la fin de l'année si ça n'a pas bien été. Mais je l'essayerai parce qu'au bout de la ligne, c'est un troisième trio. Là, tu vois qu'il boude, puis il n'y a rien qui l'allume présentement ni enlever de la glace. Au contraire, je pense qu'il se renferme encore plus puis qu'il baisse les bras encore plus.
Éric, est-ce qu'en cours de saison, on a surévalué des joueurs du Canadien ou c'est simplement certains joueurs plus ordinaires qui jouaient très bien?
On n'a pas surévalué. Moi, je pense que le Canadien joue au maximum de son potentiel puis était avec ce qu'on dirait, jouait avec beaucoup de confiance. Et quand tu joues avec beaucoup de confiance, il y a des soirs que ça fonctionne, que tu dis, tabarouette, même si on n'a pas joué un bon match, il se passe des bonnes choses sur la glace. C'est un peu ça, je trouve, qui se passait avec Canadiens. C'est qu'il y avait leur air d'aller, ils jouaient avec beaucoup de vitesse. Puis depuis les fêtes, le jeu s'est resserré, puis oups, on a surestimé le fait. On a fait l'erreur, je pense, de surestimer certains gars en se disant, ils ont joué au maximum de leur potentiel. On n'a pas évalué qu'ils avaient joué au maximum de leur potentiel et que la game changera en deuxième moitié. C'est ça qui me fait peur parce qu'ils ont bien joué, là. Moi, le premier, je trouvais qu'ils ont donc eu du succès. Puis avec leur style de jeu, il y avait eu un excellent camp d'entraînement, hein. Puis il y avait des choses à se faire pardonner. Ils ont parti en force. Ils se sont donné un air d'aller. Ils ont joué avec confiance. Et présentement, comme le talent est un peu plus limité, ben, à mon avis, le niveau de confiance, il a baissé. Puis là, on voit la différence. Puis, t'as pas de power play, tu peux pas faire la différence même un soir quand tu joues pas bien.
La semaine dernière, je t'ai un peu secoué avec ma statistique des 5 dernières années où Claude Julien dirigeait son équipe, a terminé dans un moins bon classement qu'il l'avait au match des Étoiles. Et je pourrais faire le parallèle aussi avec Michel Therrien. Souviens-toi, dans les 2-3 dernières années de Michel Therrien, c'était des 9-1 en octobre, puis des 10-0, puis tout allait bien. Comment t'expliques ça que le Canadien a... puis où Claude Julien a vécu ça à Boston aussi, mais attardons-nous aux Canadiens pour ma question. Comment t'expliques que le Canadien a souvent de bons départs, mais souvent des ratés après les fêtes? Est-ce que c'est le lot d'une petite équipe physique qui manque d'énergie en fin de saison?
Je pense que oui. Je pense que oui, puis avec un talent plus limité que certaines autres équipes. Je vais te parler de Michel Therrien parce que j'ai coaché avec. Michel, c'était un gars que quand le camp d'entraînement commençait, allait déjà chercher de l'émotion chez des joueurs. C'est que tu avais l'impression qu'il allait chercher du jus chez des gars que certains coachs vont plus aller chercher à game 40-45 où ils vont amener plus l'aspect émotif. Michel était quelqu'un qui, dès le camp d'entraînement, disait « on va aller chercher des points en début de saison ». C'est qu'il faut déjà être prêt dans le camp d'entraînement, faut déjà monter le niveau d'émotion des gars. Puis tu joues déjà, sans dire du hockey de série, parce que c'est pas vrai, mais t'amènes tellement un niveau d'émotion plus élevé que d'habitude, t'amènes plus au mois de janvier, février, mars. Il le faisait en début d'année, parce que Mike avait la conviction qu'il fallait aller chercher des points en banque dès le début de l'année, parce que c'est ça qui pouvait faire la différence au bout de la ligne. Les Canadiens, cette année, je pense, c'était beaucoup... J'ai pas coaché dans le même vestiaire que Claude Julien, mais c'était beaucoup par sentiment de culpabilité que le Canadien avait tellement été mauvais l'an passé que beaucoup de gars voulaient se reprendre. Beaucoup de gars voulaient avoir un bon début de saison parce qu'en anglais, on dit qu'ils se sentaient guilty puis qu'ils voulaient pas... Ils voulaient enlever, faire oublier rapidement la mauvaise saison de l'an passé. Fait que je pense que c'est ça qui est arrivé avec le Canadien. Et là, on s'est mis à les surestimer. Je me souviens que Marc Bergevin, il faisait des points de presse à chaque 15-20 matchs. Et là, tabarouette, je sentais qu'on était parti pour la gloire puis qu'on... Je pense qu'à ce moment-là, on a un petit peu mal évalué l'équipe. C'est un peu ça. Cette année, c'est plus ça. Quand on revient à Michel Therrien, lui, il venait tellement le chercher l'aspect émotif dès le début que là, il y avait tout le temps des bons débuts de saison à ce niveau-là.
OK. Dernière question avant de te laisser. Les Islanders sont de passage ce soir. Barry Trotz a été 14 ans l'entraîneur des Prédateurs de Nashville. Beaucoup de succès. Il a gagné la Coupe en juin dernier avec les Capitals. Il s'amène avec les Islanders. Oui, il y a un nouveau grand patron hockey avec Lou Lamoriello, mais dans son système de jeu, c'est une gang de gars, certains talentueux, mais la plupart, c'est des inconnus, avec deux, trois bons défenseurs, puis deux goalers, un et demi ou deux plus. Combien de temps ça peut durer, le règne d'un gars comme Barry Trotz avec les Islanders? Le système, à un moment donné, les joueurs, au bout de deux, trois ans, ils n'ont-tu plein le casse ou...
Mais Barry Trotz, pour moi, cette année, c'est le coach de l'année.
Oui.
Moi, c'est okay. Mon candidat numéro un au titre de coach de l'année.
D'accord.
On s'est parlé l'autre fois quand ils ont joué contre les Islanders, puis je te disais, je suis un peu inquiète parce que ça va être un match plate, ils ferment le jeu, puis, mais ils m'ont agréablement surpris. Je les ai trouvés rapides ce soir-là. Je sais pas si le Canadien avait un mauvais match dans le système, mais j'ai tellement trouvé les Islanders rapides ce soir-là, et ça, c'est du Barry Trotz. Barry Trotz, là, il a duré longtemps dans son premier club à Nashville parce qu'il a instauré le respect. Il n'y avait pas d'équipe au début, Dan. Là, c'était l'enfer. Il n'y avait pas de club, puis il trouvait le moyen de les amener dans les séries ou proche des séries. Puis le monde disait, ils gagnent pas en série. Ouais, il n'y avait pas d'équipe. Il les avait amenés dans les séries, par exemple. Et moi, ce gars-là, cette année, oui, il a fait une bonne job à Washington, mais encore là, il donnait pas tout le crédit à part le fait qu'on disait qu'on y avait montré, qu'il avait montré à jouer, à responsabiliser Ovechkin.
Oui.
Mais cette année, là, pour moi, c'est wow. J'aurais jamais, mais jamais pensé ça des Islanders. Puis il y a une grosse, grosse partie qui revient à leur coach. Puis je pense que ça peut durer longtemps parce que as-tu déjà entendu un joueur parler en mal de lui? Jamais. Les gars l'adorent. J'ai déjà jasé avec parce que dans le temps, il coachait notre ancien joueur, comment est-ce qu'il s'appelait, notre Russe Shishkanov, là, qui a joué pour nous autres.
Oui.
Je l'avais rencontré dans un colloque de hockey. Puis c'est un gars qui est tellement, Barry Trotz, respectueux. Puis on avait jasé avec, puis il s'informait, puis il se demandait mes méthodes, comment je fonctionnais à Québec, puis tout ça. C'est un gars, là, que tu jases avec, t'aurais le goût de l'inviter à souper, Dan. T'aurais le goût parce que, il impose le respect, là.
Oui.
Mais c'est un gars qui a l'impression de t'écouter, c'est un gars qui a l'impression d'être empathique avec ce que tu veux dire, mais de l'autre côté, j'ai jamais entendu un joueur parler en mal de lui. C'est que ça, tu peux durer longtemps quand ça arrive.
Parfait. Un gros merci, Éric. Bonne soirée à toi.
C'est moi qui te remercie. Salut, Dan.
Bonne soirée. Le coin du coach, chaque jeudi avec Éric Lavigne. Avant d'aller à la pause, on va entendre l'hommage que les Japonais ont lancé à Ichiro Suzuki aujourd'hui, à Tokyo, dans le Dôme au Japon, devant 46 000 personnes. Ichiro Suzuki, quelle belle carrière, 19 saisons dans le baseball majeur.
This will be the moment. For the final time coming off a Major League field, 46,451 here tonight at the Tokyo Dome, and who knows how many watching around the world.
This is emotional.
Jusqu'à 19h, encore plus.